Merci d'être venu à la parole de Dieu. Je dis bien à la parole de Dieu. Car c'est Dieu que nous sommes venus entendre à travers sa parole. Et ce matin, nous voulons remercier ceux qui sont là pour la première fois. Pour ceux qui ont disparu et qui ont rien parlé. Soyez bénis. Je vois la tête de Christiane Seine, Mélixon. Il est tout seul avec sa femme. Non, le reste n'est pas là. Ok. Soyez bénis. Notre culte de ce matin, c'est la prolongation. Le moment que nous avons passé hier après-midi, merveilleux. Merci pour ceux qui ont pris l'initiative, Christelle Anne, d'avoir permis que ce moment hier après-midi soit fait lumineux en faveur de nos personnes avancées en âge. Mais c'est un moment vraiment très convivial. Nous sentons la présence de Dieu hier. Je vous invite à la prière et puis nous allons partager la parole du Seigneur. Tout le monde soit béni. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, vienne au fond de votre cœur. Puisque ce matin nous accorde les oreilles des disciples. Pour que nous entendions, enfin que tu veux que nous entendions. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour les yeux que tu as ouverts sur le monde de l'esprit, duquel nous sommes nés et auquel nous participons. Et nous voulons te rendre grâce ce matin pour le message de l'esprit que tu nous donnes dans le nom de Jésus. Amen. Dans la nouvelle alliance, parce que la Bible parle de ça, la nouvelle qui est en caduque, l'ancienne, Dieu a fait promesse. Mais la promesse qu'il a faite dans la nouvelle alliance n'est pas comme celle qu'il a faite dans l'ancienne. Qu'est-ce qui la différencie? La promesse faite dans la nouvelle alliance est suivie d'un serment. Je juge par moi-même, c'est ce que Dieu dit. C'est que lorsque l'homme est fidèle, Dieu lui, il reste fidèle. Et cette promesse, celui de serment, est laquelle? C'est que Dieu va faire de chacun d'entre nous, membre de sa famille, famille royale. Et si par Jésus le Christ, j'insiste, parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait Jésus qui existait. Mais Jésus, celui qui deviendra le Christ, le mot Christ, c'est un titre. Qui lui a été confié après sa résurrection. Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Donc, à travers Jésus le Christ, Emmanuel, Dieu s'emploie, parce que c'est un travail, Dieu s'emploie à faire de chacun d'entre nous son fils, sa fille. Ce qui n'est pas le cas dans l'ancienne alliance. Et c'est la plus haute vocation, la plus sublime de la race humaine. Appelé à connaître, être enfant de Dieu, c'est-à-dire participer à la famille de Dieu. Et c'est par sa parole qui lumière que Dieu effectue son travail. Et nous avons besoin d'être exposés à la parole de Dieu dans ce monde agité. Le monde est agité comme un bateau sans gouvernail. Nous réécoutons de la parole du Seigneur, Dieu nous retranche de ce monde agité et nous place dans un environnement qui est celui de son repos. Quand on dit repos, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de difficultés, il y en aura. Nous serons comme un ballon gonflé qui surfe sur la surface de l'eau, parce que Dieu est avec nous et son esprit est en nous. Et ce matin, nous voulons Dieu nous appelle au-delà de nos limites naturelles, parce que être enfant de Dieu, ce n'est pas naturel. Et je le redis, être enfant de Dieu, naître de la semence de Dieu, ne fait pas de nous des êtres naturels. Dieu est surnaturel. Et si nous avons la semence de Dieu, même si nous avons le corps physique, la puissance qui agit en nous à cause de cette parole rend nous des êtres surnaturels. Sauf que nous sommes tellement conditionnés par le sens que nous vivons selon le sens. Et c'est cela que la parole de Dieu vient de sortir. Pour nous aider dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, je me suis proposé de ne pas être trop long, mais je voulais être assez précis. C'est pour cela qu'il faudra trouver le chemin de la lumière. Avant de lire le texte, dans l'Ancien Testament, il dit, voici ce que déclare le Seigneur. Allez sur la route et voyez ce qu'il en est. expérience du passé. Cherchez le bon chemin. Suivez-le. Et vous vivrez tranquille. Ça ne se passe pas comment faire. Voici Dieu qui parle de la bouche des ennemis. Et les autres se sentent avec elle. Ce sont les sentiers de séparation avec le monde souillé. Ce sont les sentiers de finalité. Donc on fait plus ce qui nous ont précédé. Si la parole est pas de juste à nous, c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé des valeurs qui ont tenu et cette parole soit transmise. Et nous l'avons reçu. Ce sentier de finalité signifie garder le cœur attaché à Dieu malgré les agitations, malgré les moments difficiles. Vous allez me dire que les moments difficiles, le monde a toujours connu, certes, nous l'avons. Mais nous allons connaître encore des moments de plus en plus difficiles. Plus un seul de Dieu, plus les ténèbres deviennent épaisses. Et c'est quand les ténèbres deviennent épaisses qu'une petite lumière est visible. C'est-à-dire vous et moi. Et pour cela, il faudra que nous soyons dans l'axe de la lumière de Dieu pour être illuminés et que nous puissions à notre tour jouer le ministère de lumière de l'ampion, de la lumière que Dieu nous a demandé d'être. Alors, ce matin, je vais lire un texte. Nous allons aller dans l'analyse. Son chapitre 36, verset 10. Car le point de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Jacques, chapitre 1, verset 17. Tout toi, excellent. Et tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et le dernier, c'est le piètre. Le dernier, Jésus leur parla de nouveau et dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. L'évangile selon Jean est l'un des plus riches du canon sacré de la Bible. À travers la divine personne de Jésus-Christ, cet évangile nous projette dans l'éternité. Parce que Marc va présenter Jésus comme le roi des Juifs. Marc va nous présenter comme le serviteur de l'éternel. Luc, le grec, parce que les gens ne comprennent rien à l'hébreu. Luc, l'intellectuel, nous pouvons présenter Jésus comme le fils de l'homme, l'arche, nous avons vu cette casse-guerre. Mais Jean, quand il va introduire sur l'évangile, vous le voyez, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il nous a projeté complètement de l'éternité. Donc Jean a présenté Jésus comme étant celui qui a toujours existé et qui existera encore. Mais celui qui va montrer le caractère divin que celui de Dieu. Évidemment, l'évangile de Jean semble être l'évangile le plus triste, parce que c'est là où Jésus cria à ses amis qui l'ont abandonné. Cet évangile décrit de la part des hommes comment le diable a violé leur esprit et qu'ils ne voyaient pas la lumière du Christ parce que Jésus a été rejeté par les siens. Cet évangile montre par ailleurs que la divinité de Jésus a été contestée. La puissance avec laquelle il vient pour aider les hommes, on fait l'objet de débats et de contestations. Ce point de vue de l'autorité de Jésus, qui est le Fils de Dieu, a été contesté. Parce que les ténèbres étaient devenues plus épaisses. La nouvelle que nous avons apprise, dit Jean, celle que nous avons apprise de Jésus, nous l'avons annoncée, c'est que Dieu a une lumière. Et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. L'allégorie de la lumière et de ténèbres a été de tout temps dans l'histoire de l'humanité et dans toutes les cosmogonies, c'est-à-dire la vision du monde. La lumière est toujours associée à la vérité. La lumière est toujours associée à l'amour intelligente. La lumière est toujours associée à la vie. Et de l'autre côté, nous avons les ténèbres. diable le rebelle. Le mensonge est toujours les pères sont toujours associés à la mort. Et donc, quand on est dans la lumière du Seigneur, nous recevons toutes les vertus que la lumière peut apporter. En botanique, lorsqu'on fait l'expérience des plantes, et qu'on les met là où il y a l'absence de lumière, ces plantes ne donnent pas les pigmentations. Elles jaunissent. Elles peuvent apporter des fruits. Parce que la lumière apporte autre chose que les ténèbres n'apportent pas. Et dès que vous allez sortir du lieu de l'ombre et que vous allez s'exposer à la lumière, vous voyez qu'il y a des pigmentations qui arrivent et les couleurs viennent. Vous comprenez très bien que lorsqu'on est exposé à la lumière, on forme en nous notre corps et développe en nous des vitalités dans la particularité de ce qui fait nos os. Et nous voyons que sur le plan spirituel, c'est pareil. Sans la lumière, on est dans les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, c'est le ténèbre de l'esprit. Là où le diable a voilé l'intelligence pour que les gens ne voient pas les vertus de la lumière perpétuelle. Et il est dit que cette lumière vient de qui ? Vient de Dieu. Dieu lui-même est la lumière. La source de toutes choses. Tout ce que nous voyons créer dans le monde, prend sa source et il se lit grâce à la lumière. Et cette lumière, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui fera apparaître le Christ au moment qu'il a fixé. Il est la source du bonheur et le seul maître de tout. C'est Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Il est le seul qui ne meurt pas. Parce que la lumière ne meurt pas. La vérité ne meurt pas. Même si nous ressemblons à la semence de Dieu et que physiquement nous mourons, nous ne mourons pas en fin de compte, nous dormons. Et le temps viendra, nous allons éliminer. Et ce corps se soumettra à la vérité. Ce n'est pas la mort qui va valer la vie comme nous le voulons maintenant, mais ce serait la vie qui triompherait de la mort. Parce que cette vie, il prend sa source dans la lumière. Dieu a dit une lumière que nous ne pouvons atteindre. Personne ne l'a vu, et personne ne peut le voir et l'exister. Mais cependant, Dieu, dans sa grâce, il a ouvert un tout petit peu les fenêtres du ciel pour que nous puissions voir cette lumière qui venait de lui, qui n'est rien d'autre que son fils incarné, et qui répond à la prière de Jérémie, qui nous fera voir la lumière, et ouvrira les yeux du ciel pour que nous puissions voir la lumière. Et Dieu a répondu à cette prière. Oui, cette prière, cette lumière est la véritable lumière, celle qui vient de Dieu vers le monde et qui éclaire le monde et qui éclaire tout homme. La parole de Dieu est la seule chose par laquelle Dieu peut créer quelque chose de physique. Je vous explique. Quand vous et moi, nous avons envie de créer quelque chose, nous utilisons du matériel. Quand nous avons besoin de construire ce pupitre, il nous faut une planche, il nous faut des outils, et nous le construisons avec l'imaginaire que Dieu nous donne. L'imagination que Dieu nous donne, créativité. Mais Dieu, Dieu qui l'explique, quand je vais créer quelque chose, il n'a pas besoin de recourir au matériel. Il parle, et la chose existe. Il parle et les choses arrivent à l'existence. C'est cette dimension que nous avons besoin de comprendre, nous, enfants de Dieu. Le livre des Psaumes disait, Psaume 82, vous avez parlé de Jésus lui-même, que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux avec petit dé. Alors, débarrassez-vous de toutes les notions de divinité que le monde nous envoie. Dans toutes les philosophies de développement auto-personnel. Vous avez le divin en vous, développez le divin en vous. Là, je suis en train de parler du fait que nous avons reçu la science de Dieu, qui est la parole, qui nous extrait du pouvoir du diable. Car la puissance de Dieu nous arrache, c'est le terme, c'est un coup de force. Pour sortir du monde, c'est un coup de force, et je suis accompli. Pour couper notre cordon, il y a ce sens-là. La Bible a dit que vous êtes des dieux. Mais cependant, pour l'avoir ignoré, vous vivez comme des hommes ordinaires et vous mourrez comme des hommes ordinaires. Ça ne vous interpelle pas? Quelle est la différence entre un chrétien et un chrétien? Si dans un monde où toutes les difficultés, tout le monde a marqué dans la même direction, c'est tout le monde est regardé dans le ciel. C'est vrai qu'il y a des difficultés que nous ne savons pas parce que nous sommes des humains. Nous sommes dans le monde. Mais ce que nous oublions, c'est que nous ne sommes pas du monde. Et que même si nous souffrons avec les gens du monde, la finalité de la souffrance ne serait pas identique. Toi, tu souffriras pour la justice, il y aura une récompense. Lui, il souffrira pour la justice, et il aura la rétribution. Ce n'est pas pareil. Et donc, nous devons avoir ça à l'esprit. Voilà pourquoi Dieu veut faire de chacun de nous ses fils et ses filles. Et quand on le dit dans ce sens, nous sommes héritiers des choses de Dieu. Nous sommes héritiers des promesses du Seigneur. Nous sommes héritiers de l'héritage. Mais plus que tout, Dieu veut faire de chacun d'entre nous participants de sa nature. Dieu veut que chacun d'entre nous, par la nouvelle naissance, participe au règne de Dieu, participe à la vie de Dieu. Voilà la raison de la vie de Dieu. Même si Jésus est venu pour sauver les hommes, mais il est venu pour faire toutes choses nouvelles. Même la nature soupire derrière la délivrance. C'est que la mort de Jésus à la croix n'est pas simplement sa mort pour sauver les humains, mais sa mort pour faire toutes choses nouvelles. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Jésus en est là, même midi, le ciel est obscurci. La terre a tombé. C'est comme si le monde dit non. Jésus, encore lui, celui par lequel nous avons été créés, nous ne voulons pas le voir. Les anges ont tout fermé les yeux quand on voyait leur maître mourir à la croix, parce qu'ils étaient prêts à intervenir. Ils demandaient au Père, parce que Jésus disait, si j'étais de ce monde, je peux demander à mon Père de venir combattre pour moi. Mais je ne suis pas de ce monde. Vous voyez quelle est la réaction des anges quand ils voient que celui par lequel le monde a été créé est en train de mourir à la croix. Les anges étaient prêts à découvrir avec tous les démons du monde. Mais Dieu a dit arrêtez. Mettez votre épée dans le fourreau. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre des hommes. Jésus. Jésus. Il est venu parmi les hommes. On pourrait parler de Jésus d'innocence. Parce qu'il semblait que le bébé qui a pété les yeux de sa maman et qui a grandi. Mais en réalité, Jésus est venu sur le mot venir qui est le plus important. Il a existé de tout temps. Les événements du monde sont déroulés devant lui. La création du monde, depuis le début jusqu'à la fin, il y était. Et il a vu la chute de l'humanité. Il a entrevu la colère de Dieu qui va s'abattre sur le monde. Et Dieu a regardé. Il a eu un moyen pour venir sauver les humains. Dieu ne l'a pas trouvé. Hein. Il s'est levé et dit Père, je viens. Tu es venu, oui, je viens. Et maintenant, moi, il est dit que je suis descendu pour accomplir la volonté de mon Père. Voilà la venue de Jésus parmi les hommes. Et pour aider les hommes qui sont tombés dans le péché, il faut que Jésus prenne un même corps comme le nôtre. Et c'est pour ça qu'il a choisi le corps d'une jeune dame innocente, par la vertu du Saint-Esprit. L'ange est venu lui dire, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu parmi toutes les femmes de la terre. Et c'est par toi que viendra le sauveur du monde. Pas par les hommes. C'est pourquoi le diable n'aime pas les femmes. Là où je vous le dis. Parce que vous êtes pas cause de lui. Le diable n'aime pas deux choses. Il n'aime pas la vie. Je sais qu'il n'aime pas la vie spirituelle. On vit un monde fou. On est capable de prendre une personne qui a donné mort à quelqu'un, on y est maître, le juger. Mais on peut constitutionnaliser la mort d'un bébé dans le ventre de sa maman. Vous comprenez quelque chose, vous? Là, ce monde dans lequel on est, on a besoin de la lumière de Dieu pour marcher dans la bonne direction. Le monde est comme un cabane ivre, chassé à gauche, à droite. Aujourd'hui, il dit oui, et tout le monde a entendu dire oui, le lendemain, il dit non. qui dit, Seigneur, comment cela serait-il possible? Quand je vais te dire que le reste appartient à Dieu. Les femmes, ce n'est pas la fête des femmes aujourd'hui, mais quand il s'agit de la naissance de Jésus, les femmes apparaissent en tous les lieux. Parce que la question de tout ça, c'était quoi? Dieu, tu m'as trompé. Je ne peux même pas toucher les parents de pouvoir tenter de construire ce qui s'est passé. Joseph a en fait élaboré dans sa tête pour se débarrasser. L'onction de Dieu connaît son mari, qui est devenu comme une maman. Mais cet enfant ne peut pas être élevé simplement que par une mère. Il faut un papa. Voilà que celui qui est censé être le papa est en train de douter. Il est en train de pouvoir se débarrasser de cette petite Marie-là. Voilà que l'ange va lui apparaître. Attention, je dis. Qu'est-ce qu'au fond de ton cœur est lu devant Dieu comme vos amis, comme mère? Ce que tu as médité de le faire, ne le fais pas. Voilà la réalité. À partir du moment où l'ange lui a parlé, le doute s'en est allé. Une autre mission l'a revêtue. Laquelle? Une mission paternelle. Là, il va prendre maintenant son rôle au sérieux. Le rôle du papa. Et c'est lui qui va commencer à protéger, accompagner, éduquer Jésus. Mais après, on ne parle plus de Joseph. Selon que la Bible ne parle plus de personne, c'est qu'il vivait mort. Avez-vous entendu parler de Joseph par la suite? Quand vous êtes mort à la croix, c'est que Marie qui apparaissait. Joseph n'est pas là. Donc cela suppose que Joseph est déjà mort. Et pour le Moyen-Orient, pour le peuple n'est plus là, qu'est-ce qui prend la relève? C'est Jésus. C'est lui. Et donc il a assumé son rôle. Voilà pourquoi la collègue disait à Jean, regarde ta maman. Et il disait à la maman, regarde ton fils. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Noël n'est pas simplement l'onction maternelle pour laquelle nous rendons grâce à Dieu. Mais Noël, ça doit restituer à chacun d'entre nous les hommes notre dimension de papa, de père, de protecteur. Et moi, en tant que pasteur, quand j'ai des entretiens avec les personnes, l'endroit où il y a trop de dégâts dans la vie des hommes, c'est une maison familiale. Venant de la part d'un père, que les enfants n'ont pas de protection, et c'est d'eux qui viennent répondre. On n'a jamais connu dans notre monde des incestes que dans les foyers. Je crois qu'au milieu de nous-mêmes, d'autres en ont vécu. Ils perdent la place dans leur cœur. Ils n'ont pas joué leur père. Ou leur père prospère, ils détruisent. Attention, Joseph, il y a Hérode qui cherche à tuer l'enfant, prends ta femme, prends l'enfant, fuis en Égypte. Et quand le danger est éclaté, l'ange lui apparaît à nouveau. Ne prends plus l'enfant, ramène-le à la fenêtre. Et il peut grandir en toute sagesse. Dieu nous interpelle, nous les plaît. Alors cherchons plus de la qualité de papa, car lui, il en a profité. Il cherche en Dieu. La lumière. La lumière est l'intelligence de l'être humain. Et là, qui est vers la vérité. Et cette lumière, elle vient de la part du Seigneur. C'est pourquoi nous tous ici, lorsque nous avons reçu la lumière de Dieu, la Bible nous dit, veillez à ce que la lumière qui est en vous ne soit ténèbre. Parce que la lumière peut devenir ténèbre dans la vie d'un être humain. Et Dieu est ténèbre de quelle manière? Lorsqu'on met le voile dessus, lorsqu'on ne le développe pas, lorsqu'on ne met pas l'onction de l'huile pour que cette flamme grandisse. Voilà ce que Jésus vient de nous apporter. Et dans l'univers actuel, si les ténèbres prospèrent sur le cœur des hommes que nous sommes en acceptant Jésus, Jésus déchire les ténèbres. Il absorbe la méchanceté. Il donne naissance à la vie. Il met en tête le mensonge. Il rétablit la vérité. Il met les balises. Et notre conscience dit que ça, c'est le droit chemin. Et lorsqu'on veut en sortir, il nous interpelle. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que nous avons suffisamment de place pour le Seigneur dans notre cœur? Ou alors il est dans la petite chambre de notre cœur? Parce que dans toutes les chambres, il y a beaucoup de pièces. Voilà. Seigneur, je te mets sur cette pièce-là. Celle-là, c'est. Non, on ne touche pas. Mon péché mignon n'apporte pas la lumière dans cet endroit. Mais ça, oui, tu peux l'éclairer. Jésus n'a pas toute la place. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout notre vie, il n'est pas le Seigneur du tout. Quand on dit Seigneur, c'est celui qui prend le contrôle de tout. Et Dieu n'a pas la lumière. Plus la lumière est jaillie, plus tout ce qui est mauvais est libre. C'est la volonté du Seigneur, de la statue parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas de place pour lui. Je ne sais pas comment Dieu pensait. Moi, j'ai créé le monde, mon Christ a créé le monde, il ne vient pas avec vous, et pour ne pas dire, pas lui donner, mais c'est une petite place. Mais c'était sa mission. Il a fallu qu'il naisse dans un lieu misérable pour être capable de sauver les misérables. Il a eu une amplification qui lui permet d'être avec les pauvres et d'être avec les riches. Parce qu'il doit sauver. Et il est sauveur sur la terre. Il est sauveur sur la terre. Et comme il est sauveur sur la terre, Dieu l'a élevé et il est sauveur dans les cieux. Il n'y a pas d'espace dans notre vie où Jésus ne doit pas être Seigneur, mon bien-aimé. Que la seule méthode à aller de l'avant. Ce message n'a qu'un rappel. On parle quelques détails peut-être. Juste pour ajuster l'architecture de la foi que nous avons au Seigneur, qui parle de notre foi inébranlable. Vous savez, l'Église a été à un moment donné, un peu comme l'obscurantisme. L'Église véhicule beaucoup de pensées qui font que les hommes ne réfléchissent pas à eux-mêmes. Mais Dieu ne touche pas notre volonté. Il y a une chose que Dieu ne touche pas, c'est notre volonté. Dieu plus vite que notre volonté. Mais à un moment donné, l'Église, quand je parle de l'Église, je parle de l'Église catholique à un moment donné. Ils ont été avec un obscurantisme. C'est ce qui a provoqué le mouvement du siècle de la lumière des scientifiques. De la lumière des scientifiques devient la couleur des ténèbres. Ils veulent éclairer les hommes, mais ils ont fait encore d'avoir peur des ténèbres du diable. Voilà. Le combat. Jésus détruit tout ça et il met quelque chose de nouveau. Écoutez, vous croyez-moi. Voilà le privilège que nous avons aux Dieu. Permettez-moi de rappeler avec force ce message, parce que c'est celui-là qui va nous sauver. C'est ce message qui nous conduira dans la bonne direction. Et c'est un message d'amour. Un message d'amour. Si Dieu n'aimait pas Dieu, non, il n'aurait pas envoyé Jésus. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce que l'amour signifie bon. L'amour signifie donner. Et pas donner le petit cadet, pas donner le petit, pas donner tout ce qui est paillasson, les pures. Non. Donner, c'est donner le meilleur. Et Dieu donne le meilleur. Et si Dieu donne le meilleur pour nous, il donne le meilleur de nous-mêmes pour le Seigneur. Voilà ce que j'ai envie de dire ce matin. Je vous invite à la prière. Mes pensées sont tellement profondes que mes vocabulaires sont tellement faibles. Je voudrais simplement vous prier d'ouvrir nos cœurs vers l'univers de Dieu où les réalités que le monde ne peut pas exprimer se manifestent. Que notre cœur soit rendu sensible à ce genre de choses. Voilà le travail de salut que tu as accompli à nous. Et nous devons prendre conscience ce matin. Et tu dis, Seigneur, quand tu as mené l'œuvre que tu fais dans notre vie, tu vois au milieu de nous beaucoup de personnes et des femmes en particulier qui ont tué pendant longtemps. Ces blessures que celui qui est censé les protéger. Ils ont essayé de renforcer cela dans leur subconscience, mais pas dans leur solution. Et ça peut être leur caractère, leur humeur. Seigneur, ce matin, je te prie de plonger ta main divine et de les toucher, de les guérir. C'est pour ça que tu envoies la lumière. En médecine, Seigneur, on peut soigner également certaines situations par la lumière. Et ta parole, Seigneur, soit le plus profond de notre être. Accorde cette guérison ce matin. Merci de ce que tu donnes à ce que notre lumière grandisse, qu'elle jaillisse. Et nous aussi, nous puissions être non seulement des petits lampions, mais des grands luminaires. Pas destinés à être mis sur le sceau, mais mis sur la montagne afin qu'il éclaire, car son rayon s'étendra au plus loin par le témoignage. Alors Dieu, nous voulons nous attacher à toi. Apprendre à connaître le secret des sciences des enfants de Dieu. Ainsi, nous pouvons te représenter valablement dans notre vie de tous les jours, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos relations interpersonnelles, dans tout ce que nous voulons faire, que ça puisse être fait de ta gloire. Et si devant toi, Seigneur Dieu, nous avons manifesté une certaine défaillance, nous n'avons pas choisi d'être nés pécheurs,